la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, je rappelle quelques éléments de contexte avant d'arriver à ce passage qui est le sermon sur la montagne. Et juste après avoir été tenté 40 jours dans le désert, Jésus appelle ses premiers disciples. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Et ses premiers disciples, ils quittent ce qu'ils font pour le suivre immédiatement. Puis, c'est le début du ministère de Jésus. Il parcourt la Galilée, il enseigne dans les synagogues, il prêche la bonne nouvelle, il guérit toute maladie du peuple, il devient très célèbre dans toute la Syrie, mais également en Galilée, en Judée et au-delà du Jourdain. Matthieu 4, versets 23 à 25 pour ce passage. Il y a encore beaucoup de choses à dire, et par rapport à ce qui se passe avant le sermon sur la montagne, j'en retenir quatre choses. La première, c'est que Jésus, il passe une grande période dans le désert. Et cette période lui permet d'être affermi par Dieu. Et par rapport à nous, je vois ça comme des fois dans notre vie, on traverse des déserts. Et au lieu de les considérer comme étant quelque chose de mauvais, comme quelque chose qu'on devrait rejeter, on devrait plutôt, comme Jésus, l'accepter et le considérer pour notre bien, pour notre affermissement personnel. Deuxièmement, Jésus choisit individuellement les disciples. Par rapport à nous, je pense que nous devons aussi choisir avec sagesse et discernement les personnes que nous allons discipuler. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évangéliser tout le monde. Toute personne convertie doit être discipulée, mais je veux dire que dans notre cas, on ne pourra pas discipuler tout le monde, mais que vraiment il faudra nous concentrer sur les personnes que Dieu nous met à cœur. Troisièmement, Jésus les prend avec lui dans son ministère et leur montre ce qu'il fait. Et par rapport à nous, je pense qu'en tant que serviteur du Seigneur, on se doit de montrer le bon exemple en formant les personnes qu'on discipule, en les enseignant, en les évangélisant. Il ne faut pas que nous attendions d'être prêts pour leur permettre de nous suivre, mais permettons-leur de nous suivre dans notre vie de tous les jours. Et enfin, quatrièmement, Jésus a de la renommée très rapidement, et ce qu'il fait et l'impact de ce que Dieu fait en lui, de ce que le Père fait en lui, de ce que le Saint-Esprit fait en lui, s'étend sur une large zone géographique. Alors qu'une grande foule le suit, il monte sur cette montagne en étant accompagné de ses disciples. Il commence alors son sermon sur la montagne, qui est retranscrit sur trois chapitres. Donc on est Matthieu 5, 6 et Matthieu 7. Et il bouscule toutes les mentalités avec les béatitudes. Par 10 fois, il les exhorte à être heureux, à se réjouir au sujet des réalités spirituelles. Par exemple, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ceux qui sont miséricordieux obtiendront miséricorde. Et il applique déjà la réalité du salut aux personnes qui croient en lui. Les personnes sont déclarées pures par le sang de Jésus, et en vertu de cela, elles ont la vie éternelle. Et ce qui consiste à connaître Dieu, et donc à le voir dans sa gloire au ciel, comme nous dit Jean chapitre 17, verset 3. Et les personnes miséricordieuses le sont, car en tant que croyantes, elles ont eu accès à cette miséricorde qui vient de Dieu, et non pas parce qu'elles le méritent. Et il y a deux notions qui sont importantes aussi à rappeler, c'est un rappel sur la miséricorde, c'est ne pas faire à quelqu'un ce qu'il mérite. Dieu nous a donné miséricorde, il nous a pas donné ce que nous méritions, qui était la mort. Et par rapport à la grâce, c'est le fait de faire à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas, c'est-à-dire que Dieu nous a offert cette vie éternelle. Et ensuite, il enchaîne avec le passage qu'on étudie aujourd'hui, Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16. Donc je propose un découpage en deux parties. Premièrement, on verra dans quelle mesure le chrétien est appelé à être sel de la terre. Puis dans une deuxième partie, nous verrons le verset 14 au verset 16, le chrétien qui est appelé à être la lumière du monde. Donc déjà, l'utilité du sel est double. Premièrement, il permet de conserver les aliments. Avant, on n'avait pas de frigo ni de congélo, on conservait les aliments avec le sel. Et il permettait aussi de donner de la saveur aux aliments. Aujourd'hui, quand on parle de sel, on pense surtout au deuxième aspect qui est de saler notre plat, de donner plus de saveur à notre plat. Mais je pense que personnellement, dans ce contexte, dans le contexte où Jésus parlait, il y avait vraiment ces deux notions par rapport au sel. Premièrement, oui, le sel permet d'assaisonner les aliments. Et je pense que c'est un parallèle par rapport à nous qui sommes le sel de la terre, car nous avons le Saint-Esprit en nous, et qui nous a tout d'abord justifiés par le sang de Jésus, et qui a coulé sur la croix, et qui nous sanctifie jour, jour après jour, pourvu que nous lui laissions le contrôle. Et deuxièmement, on a vu aussi que le sel permet de conserver les aliments, et si donc nous sommes le sel, nous devons aussi conserver notre foi, notre zèle pour le Seigneur. Et normalement, quand on est un chrétien engagé, ce que j'appelais CCE, chrétien converti engagé, on devrait déborder de joie, ne reculer devant rien pour l'annonce de la bonne nouvelle, partager cet amour avec toutes les personnes. Bref, notre joie et notre espérance devraient être communicantes, c'est-à-dire le fait de communiquer, et communicatives, c'est-à-dire aimer communiquer. Et si tel n'est pas le cas, il y a quelque chose qui est en train de voler notre paix, notre attention, notre objectif. Et ce péché, oui, parce que ce quelque chose, il faut l'appeler comme tel, c'est le péché, qui fait que nous perdons de notre saveur, comme le sel qui perd de sa saveur. Nous ne laissons plus le contrôle au Saint-Esprit. Nous prenons nous-mêmes le contrôle. C'est comme si notre vie, c'était une voiture, et que Dieu, au moment de notre conversion, il se propose de prendre le volant et de nous conduire à travers son Saint-Esprit. Le problème, c'est que si nous décidons de prendre le contrôle, nous prenons le volant. Et dans ce cas-là, ce n'est plus Dieu qui est aux commandes. On sait bien que si deux personnes sont sur le même volant, il y a un problème. Donc, nous devons laisser le contrôle du volant à Dieu. Nous devons laisser au Saint-Esprit le contrôle de notre vie. Et le problème, c'est que si nous continuons dans cette tiédeur spirituelle, si nous perdons de notre saveur, nous ne sommes plus utiles à Dieu. Et Matthieu 5 dit que nous ne servons plus qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds par les hommes. En effet, ainsi nous n'agissons pas en vertu de ce que nous sommes, du sel. Et je parle de tiédeur spirituel parce que la Bible aussi en parle dans Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On a encore une fois cette idée d'être jeté dehors. Et on voit ici que c'est Dieu qui le fait. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. Dieu est absolument saint. Il ne peut tolérer que ses saints, ses serviteurs, ses sauvés ne vivent pas et n'agissent pas comme tels. Il ne peut tolérer le mal et le péché en nous. Prenons-en conscience et confessons-nous, et moi le premier. Marchons dans la repentance, relevons la tête. Laissons le Saint-Esprit reprendre la place qui lui est due. En effet, Dieu nous pardonne à chaque fois que nous venons ou que nous revenons vers lui. Et je cite 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et au contraire, le chrétien qui lui est rempli du Saint-Esprit est sel de la terre. Il assaisonne tout, le sel de la terre assaisonne tout son comportement, toutes ses paroles de ce même sel. Et afin de nous en rendre compte, je propose de lire Colossiens chapitre 4 verset 2 à 6. Et je propose de le lire comme si c'était Paul qui nous parlait directement. Colossiens 4, versets 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est vraiment super encourageant parce que Paul, quand il écrit ça, il nous rappelle qu'il est dans les chaînes, il est emprisonné, et il nous encourage à persévérer dans la prière, à nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui sont qui ne sont pas sauvés et à racheter le temps, à utiliser notre temps pour servir et pour annoncer son évangile. Et il nous exhorte aussi à ce que notre parole soit toujours assaisonnée de sa grâce, de son amour, assaisonnée de sel. Et comme on a vu, le chrétien est sel, et notre parole aussi doit, dans ce cas-là, aussi être assaisonnée de sel. Et également afin que nous sachions comment il faut répondre à chacun. On a vu que nous étions sel de la terre. Et maintenant, je propose de regarder verset 14 au verset 16, que je vais relire. En quoi le chrétien est lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit lui-même qu'il est la lumière du monde. Je cite, « Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jésus dit dans le passage qu'on vient de lire que nous sommes la lumière du monde. Et dans ce passage, je propose de considérer deux caractéristiques par rapport à la lumière. La première, c'est que la lumière se voit, et deuxièmement, que la lumière brille et qu'elle éclaire. Par rapport au fait que la lumière se voit. Déjà, c'est un principe un peu facile à dire, mais on ne peut pas ne pas voir la lumière, sauf si on est aveugle. Cette lumière, elle est, dès qu'on est dans une pièce, c'est sombre, on allume, et si je regarde dans cette direction, je vois la lumière. Pareil, si je regarde en haut, je vois cette lumière. Cette lumière est visible. Et Jésus prend l'image d'une ville sur la montagne, une lampe sous le boisseau. Alors, Mickaël, tu peux juste montrer l'image, est-ce que c'est un boisseau? Voilà, donc c'est... Donc si on met la lumière dans ça, elle n'éclaire pas grand-chose. Donc on est appelé à être cette lumière qui ne se cache pas, mais au contraire qui soit visible et qu'on va mettre sur un chandelier. Autre chose par rapport au fait que la lumière se voit, c'est qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. La lumière fait contraste avec l'obscurité, avec les ténèbres. Et en tant que chrétien, les gens autour de nous devraient voir que nous sommes différents. Différents des autres personnes de ce monde, différents des valeurs de ce monde. Et dans le cas contraire, nous serions comme le sel qui a perdu sa saveur dont on a parlé juste avant. Et si le chrétien est lumière, il doit se voir. Non seulement nous sommes différents, mais en plus les gens devraient nous repérer par rapport à nos comportements, à nos paroles, et voir que nous brillons et que nous sommes différents. La deuxième chose par rapport à la lumière, c'est que la lumière brille et éclaire. Elle brille, et ça c'est une question d'intensité. On peut briller de manière plus ou moins importante, mais le plus important est que on brille. Et également, elle a un rôle, c'est qu'elle éclaire. De même, nous, en tant que lumière, nous devons éclairer les gens autour de nous, afin qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans les ténèbres. Et le chrétien doit briller et avoir un impact sur les gens autour de lui. Il doit porter du fruit, et comme dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Une dernière chose par rapport à la lumière, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la source de la lumière, c'est Jésus. Et nous devons rester continuellement connectés à cette source de lumière pour pouvoir être nous-mêmes ensuite lumière et éclairer à notre tour les autres. Si nous nous rendons compte que nous ne portons pas de fruits ou que nous n'éclairons rien ni personne, c'est sûrement dû au fait que nous ne sommes plus connectés ou très peu connectés à la véritable lumière qui est Jésus. D'où l'importance de la démarche de confession, repentance et restauration qu'on a explicité tout à l'heure. En conclusion, nous avons vu qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être sel et lumière. Un sel qui donne de la saveur à ce monde, un sel qui donne envie. Une lumière qui se voit, une lumière qui brille et une lumière qui éclaire. Et pendant cette semaine, je vous invite à prier pour que nous puissions être nous-mêmes éclairés sur des péchés que nous n'avons pas vus ou que nous n'avons pas encore traités. Prions pour être zélés, prions pour être sel et lumière durant cette semaine, mais également tous les jours de notre vie. Et je vous invite à vous interroger sur où vous en êtes par rapport à tout cela. Et je propose d'avoir une minute de silence pendant laquelle on peut avoir un moment d'introspection. Puis après, je prierai et on va chanter « Lumière du monde ».